Je l'ai allumé après manger. À 14h, c'était la barge russe. Johnny est là en train de parler. Elle me fait de la guitare. De battre mon cœur s'est arrêté. Sur le lit, j'ai jeté mes disques. Tout contre elle qui est branchée. Ses harmonies m'ont rendu muet. Fatigué, je suis crevé. Toute la nuit j'ai écouté des émissions. Le silence, c'est tellement bon. Johnny et Moussa sans contrefaçon. C'était le moment de la réflexion. 14h05, la quotidienne. Et on se pose des questions. La barge russe, c'est cette femme.
Barge russe 893. La traversée sur l'Euphrosyne. Alors, qu'est-ce que c'est l'Euphrosyne ? C'est un bateau sur lequel traverse la traversée des apparences de Virginia Woolf. Il est question, c'est un voyage sur un bateau dans lequel j'ai relevé plusieurs choses parce que ce livre est vraiment très très intéressant. Dans la société du spectacle, on peut passer à côté de l'importance des spectateurs qui sont pourtant présents. Pour encourager le ou les acteurs, voire, comme le sous-entendu persistant, le ou les descendants, les acteurs. Le spectateur, il encourage ou il n'encourage pas ou il fait rien. Bon, c'est à différents degrés tout ça, bien sûr. Que leur évolution, à eux comme aux autres, ne s'établisse pas ou alors mal. Que l'évolution de l'acteur s'établisse pas ou mal, c'est ou alors même des spectateurs, que l'évolution du spectateur, s'il met à bas hypocritement ou non un acteur, quelqu'un dans la rue, eh bien ça va jouer à mal pour lui. Les spectateurs de l'évolution, soit nous et les autres, se réalisent entre des visions abstraites, dénuées de concret, comme les lignes d'un livre qui nous dépose et peuvent nous emmener hors des lignes d'un livre, du même livre. Des lignes d'un livre peuvent nous emmener ailleurs. Combien de fois ça m'est arrivé ? L'exemple que je prends, c'est tout le temps Madame Bovary. J'ai lu ce livre du début à la fin, je le trouvais très beau, mais j'ai rien compris. C'est plusieurs années plus tard que j'ai appris qu'en fait, Emma, elle se suicide. Enfin, bref. Entre autres. Et donc, le livre, ça a cette force, en tout cas, avec ce qui agit beaucoup sur moi, qui me dépose hors du sens d'un texte. Parce que moi, j'avais un autre truc en tête quand j'ai lu ce livre. Et je vivais ce que les ressentis que je pouvais éprouver avant, je les revivais à fond dans ce livre. Le livre, je comprenais rien, mais moi, je me réalisais par ce livre. Je vais vous raconter un rêve que j'ai pu faire du 1er au 2 janvier 2024. Dans une auberge de jeunesse à Munich, Allemagne. Défilé d'une vie, avec un témoin à apparition récurrente, qui, me semble-t-il, était Gabriel Byrne. Vous savez, qui joue dans Usual Suspects, notamment. Il était tout jeune, par contre. Je l'ai vu dans un autre film où il était tout jeune, c'est pour ça. Qui me laissait spectateur de son existence, et bien sûr de la mienne. Spectateur d'un film où tout peut s'oublier. Comme dans la vie. Et qui se termine, le rêve, la vie, par une non-fin, soit la continuité de la vie perpétuelle. Voilà ce rêve. En fait, même à la fin de, par exemple, d'un film, c'est pas une fin, c'est une suite. Une suite qui s'ouvre à toi. C'est la fin du film, de l'histoire qui est montrée, mais qui doit, à toi, t'emmener ailleurs, t'emmener quelque part. Continuer ta vie, te donner des indications à suivre. Bon, avec les films actuels, quoique peut-être, pour certains, mais pour d'autres, non. Bon, en tout cas, il y a des films actuels qui sont quand même très très bons, hein, bien sûr. Et qui emmènent, si on est emmené à aller voir un film, ou à voir un film, même récent, c'est que ça... Il y a des trucs, même dans les films récents, qui sont très très bons, très très bons. Là, j'ai vu Jumanji, pour les vacances avec mes enfants. Le dernier, là, pas celui avec Robin Williams, que j'ai pas vu, mais avec Jack Black, des School of Rock, excellent, j'adore cet acteur. Et ben, ce film m'a emmené quelque part, m'a donné des indications pour les émissions d'ailleurs. Le vent et l'espace, alors ça c'est une citation de La traversée des apparences de Virginia Woolf, le vent et l'espace s'abolit, l'intérieur du cerveau continue à onduler, comme une mer dans un décor de théâtre. Donc on a pu écouter Human Being par Eric Truffaz. Ondulé comme une mer dans un décor de théâtre, disais-je. Citais-je plutôt Virginia Woolf, est abordée ici. Une configuration du temps, selon mon interprétation, l'en va de soi. Dans un espace pouvant illustrer un pic qui désœuvre les plans de la nature créatrice. La désacralisation du travail, de ce travail, constitue une plaie vivante dans les corps des sociétés modernes. Une conception plus concrète du temps s'avère nécessaire dans le monde moderne, héritier des mythes et des rêves que nous n'avons pu sauvegarder, juste à désolidariser le temps de sa signification originelle. Alors ça, j'ai lu ça dans Mircea Eliade, Forgeron et Alchimiste. Constitue une plaie vivante dans le corps des sociétés modernes. Eh bien, c'est la désacralisation du temps. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose... démantibule, c'est-à-dire on va vouloir faire un court-circuit, tu vois, ben, surtout avec le téléphone portable, on fait plein de trucs qui court-circuitent. Enfin, je veux paraître être un conservateur que je ne pense pas être, mais peut-être en tout cas je donne le temps aux choses et je vais contre les gens, les personnes qui ne vont plus, qui ne donne pas le temps aux choses. Pour toujours être pressé, aller vite. C'est ça. On désacralise le temps. Et on donne une plaie au temps. C'est très bien dit. J'ai adoré dire ça. C'était super. Une plaie vivante dans le corps des sociétés modernes. On prend plus le temps. Parce que chaque chose a besoin de temps. Tu peux pas manger... Enfin, par exemple, pour se faire cuire un œuf, il faut un certain temps. Eh bien, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Si tu ne fais pas cuire assez, il va pas être à ton goût. De trop, il ne va pas être à ton goût non plus. Les goûts varient pour chacun. Hein. Je parle un exemple comme ça, quoi. Tu vois ? Dans La traversée des apparences de 1915, Virginia Woolf plonge son esprit et invite ceux des lecteurs à plonger dans les profondeurs. Ça, c'est dans la préface que j'ai pu lire ça. Préface de... C'est bien, en fait, c'est l'édition... Attends, je vais vous raconter après. Ah ouais, je te raconte après. Ouais, je te raconte juste après. Juste après. Ouais, je te raconte après. Mais là, il faut que je vois comment ça s'appelle. Julie Pavesi. En fait, c'était une collection Connexion aux éditions Flammarion qui était dirigée par Gérard-Georges Lemaire, que j'ai interviewé il y a ça, plusieurs années. En tout cas, très, très 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 bonne collection. Il y a pas mal de Burroughs aussi là-dedans, mais très très bonne collection. En tout cas, donc, ça a été donc, Esprit et invite ceux des lecteurs à plonger dans les profondeurs des récits, ce récit de l'inconscient. Les profondeurs de l'inconscient, peuplées de monstres qui ne peuvent être ni soupçonnés ni vus à la surface. Virginia Woolf nous plonge dans les eaux visqueuses que nous rencontrons, nos monstres qui deviennent la clé de l'accès du côté invisible. Ça c'est moi, côté invisible, mais c'est pour qu'on comprenne quoi. Si vous comprenez le côté invisible, si vous me suivez des fois, dans cette œuvre. La traversée des apparences, on participe à l'émergence de l'autre monde, du côté invisible, durant, bon, 1915, l'apogée freudienne, quand même. C'était Freud à fond, là. C'est une découverte de l'inconscient pour beaucoup, beaucoup d'intellectuels, de littérateurs, etc. Alors, si on rentre dans le vif du roman, maintenant, Terence, le personnage auteur, qui veut écrire un roman sur le silence. Je cite. D'un seul coup, le monde avait repris forme et volume. Les passagers n'étaient plus des atomes lavés dans le vide, mais des êtres portés sur l'échine de la mer par un vaisseau triomphant. Le vent et l'espace s'abolissaient, le monde flottait comme une personne dans un bassin, et la mentalité humaine renouait ses croyances de naguère. Peut-être Woolf établit-elle des parallèles avec le temps. Ce que je vous disais dans la barre juste passée, ou là, avec Mircea et Eliade, qui en fait, il faut pas aller plus vite, quoi, tu vois. C'est, faut laisser les choses se faire. Et là, les choses se font, mais pas artificiellement, mais naturellement. Plus loin, donc dans le livre, Hélène, un autre personnage, en vient à regretter l'impulsion qui lui valait un enchevêtrement de son existence avec les destinées d'une autre créature humaine, d'autres créatures humaines. Peut-être, là j'ajoute, le regret d'une schizophrénie non clinique, qui est donc rejetée par la société. Et pour se plaire dans la société, elle est obligée de dire non à cette schizophrénie non clinique, de ne pas avoir de... Vous voyez, de se refuser à tout ça. On a aujourd'hui, je me sens très libre le fait de vous dire tout ça. Hein. À l'époque, c'était la société était peut-être tellement différente que ce n'était pas possible. Donc bref, c'est une interprétation encore une fois. Donc ensuite, Youet, un autre personnage, c'est qu'on n'est jamais seul et qu'on n'est jamais avec les autres, dit-il. Quelque chose dans le genre des bulles, des auras. Si ma bulle entrait en collision avec une autre, les mondes intérieurs deviendraient énormes, dit-il. Vous vous rendez compte, Virginia Woolf, 1915, hein, c'était son premier roman. Il était à voyer des choses incroyables. Hein. Je cite, pourquoi les rapports entre individus sont-ils si insuffisants, si fragmentaire, si aléatoire. Le mystère de l'existence est l'absence de réalité, même dans ses propres sensations, conduisent à faire l'effort de se rappeler si telle chose avait été dite, pensée, partagée ou rêvée par soi. Virginia Woolf finit le chapitre 16 par « Parler, parler, rien que parler, à quoi cela servait-il ? À établir des causeries sociales. » Ça, c'est ce mot qui donne une réponse, une interprétation, encore une fois, à établir des causeries sociales, souvent inutiles, pourtant nécessaires à l'entrain humain. Voilà ma réponse à cette question de Virginia Woolf. Dans ce premier roman, Virginia Woolf pressent, prophétise sa vie d'écrivain à venir. Ça, c'est dans l'introduction. Sont reliées les crises existentielles entre les monstres, les humains, les rythmes des flots, les vacarmes, les silences. Dans ce livre. Thank you. comme il est dit dans le livre, avec la musique, on ne ment pas. Et on peut... Moi, la troisième de Beethoven, je l'adore parce que justement, je la trouve vraiment en prise directe. On peut pas, il n'y a pas de mensonge, quoi. On peut pas. Il n'y a pas de faux semblants. De... Non, c'est genre la vérité par la musique.
Le temps prend la radio, puis court dans les oreilles. Tu prends une pochette, puis tu en retires un disque. Les échos des rues t'appellent et tu t'y frottes pour oublier. Oh, 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 that's the rock and roll suicide. T'es trop vieux pour oublier, trop jeune pour choisir, et tu attends patiemment les questions. Tu marches le long des cafés, mais tu ne manges pas pour vivre plus longtemps. Oh no, 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 you a rock and roll suicide. Et n'importe quel rythme te fera traverser le boulevard. Jour s'arrête à la place de rentrer chez toi. Ne laisse pas le soleil s'effondrer, ne le laisse pas non plus tourner l'esprit. Oh non, ne le laisse pas seul, tu te regardes dans le miroir. Ta tête, et je ne sais pas comment t'aider. Oh non, t'es pas tout seul. Pas de problème, y'a Johnny Tupac qui est là. Et Helmut Schwartz aussi, dans The Rouge Fortune. Les couteaux vont te la serrer le cerveau. Je t'aiderai avec tes peines sur JetFM.